7h30 sur France Inter. Aujourd'hui, c'est samedi, nous sommes le 9 mars. Soyez les bienvenus, voici le journal de Bernadette Chamonaz. Bonjour Bernadette.
Bonjour, 8 mars, quand les footballeuses américaines disent stop, bien meilleur que les hommes, mais nettement moins payées, elles attaquent la fédération en justice. Très marquée d'ailleurs cette année dans le monde, cette journée des droits des femmes. Des femmes encore, avec une rencontre exceptionnelle dans ce journal, avec celles qui combattent Daesh en Syrie, des Kurdes, mais aussi une Française, vous l'entendrez. Dans l'actualité en encore la collecte des Restos du Cœur. Nous irons dans l'Aude, l'un des départements les plus pauvres de France. Fukushima, 8 ans après la catastrophe nucléaire, on verra comment on règle le stockage des eaux radioactives. Et du cinéma drôle et engagé, Damien veut changer le monde.
Les invités de la matinale, à partir de 8h20, ce sera Michèle Rivasi, la députée européenne Europe Écologie Les Verts. Vous posez vos questions dès maintenant à Michèle Rivasi. C'est sur franceinter.fr, à la page du 6-9 Weekend, via l'onglet Réagir. Et puis à 7h50, Patricia Martin, votre invitée.
Cyril Graziani, qui a coécrit avec Cécile Amar, Le peuple et le président. C'est un livre.
France Inter. On commence, Bernadette, avec ce coup de poing sur la table.
Donné par des femmes, des footballeuses américaines. Hier 8 mars, journée internationale des droits des femmes, elles ont saisi l'occasion pour attaquer leur fédération en justice. Plainte devant un tribunal de Los Angeles pour discrimination, bien moins payée que les hommes, mais bien plus titrée et plus populaire. Grégory Phillips.
Avec 4 titres olympiques et 3 coupes du monde à leur actif, elles sont de véritables stars aux États-Unis. Les 28 filles de l'équipe nationale ont quasiment tout gagné. Elles sont en tête du classement FIFA et la finale du mondial qu'elles ont remporté au Canada en 2015 est à ce jour le match de soccer le plus regardé de l'histoire de la télévision américaine avec 25 millions de téléspectateurs. Pourtant, ces footballeuses sont beaucoup moins bien payées que les hommes. Ainsi, en 2014, la fédération a versé à l'équipe masculine un peu plus de 5 millions de dollars de primes pour avoir atteint les 8e de finale de la Coupe du Monde. L'année d'après, les filles, qui elles ont remporté la compétition, n'ont touché qu'1,7 million. Alex Morgan, l'attaquante vedette de cette Team USA sur NBC.
Généralement, les équipes féminines génèrent moins de revenus que les équipes masculines, mais il faut regarder ce qui se passe aux États-Unis. Dans le passé, aujourd'hui et demain, on génère plus d'argent que les hommes.
Pour la prochaine Coupe du Monde cet été, les Américaines restent les grandes favorites, alors que leurs collègues masculins ne s'étaient même pas qualifiés pour le Mondial en Russie l'été dernier. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Un 8 mars particulièrement marqué hier en Espagne, plus d'un demi-million de femmes, d'hommes pour dire stop aux inégalités. En France, même slogan, 15 000 manifestants. À Berlin, la journée était même déclarée fériée. Elles aussi sont des combattantes. Leur ennemi, Daesh, elles l'affrontent arme en main. À Baghouz, là où dans leur ultime réduit syrien, les djihadistes se terrent sous les bombardements des forces démocratiques syriennes appuyées par la coalition internationale. C'est là, donc, dans l'est de la Syrie, que notre envoyé spécial Aurélien Colli a pu parler avec ses combattantes, une rencontre rare.
Sousa, dernière ville avant Baghouz, rue principale éventrée, maison affaissée. Ici, les combats ont été particulièrement violents pour repousser Daesh dans son dernier réduit. Mais hier, on célébrait les femmes, les combattantes kurdes qui ont participé à cette bataille. C'était très long, très difficile, ils avaient tout miné, mais il n'y a pas de victoire facile, explique Sama, la vingtaine, Kalachnikov en bandoulière, entourée de son unité, uniquement des femmes. Un peu plus loin, une Allemande, une Italienne et une Française qui se confie à condition de pouvoir garder l'anonymat.
C'est pour soutenir le peuple kurde, ce peuple qui se bat depuis des années, des années, des années. Et l'admiration pour toutes ces femmes qui, malgré toutes les blessures qu'elles ont pu avoir, continuent de se battre pour la libération et la reconnaissance du peuple kurde et de sa zone.
Féministe, internationaliste, celle qui se fait appeler Eva Lasmine vient du sud de la France. Elle ne participe pas directement au combat. Elle ne s'est pas engagée non plus contre Daesh.
Daesh, c'est une voix qui refait ce schéma d'oppression sur les femmes. Du coup, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais c'est aussi intéressant de savoir que ces femmes, à la base, ne se sentaient pas bien dans ce système et ont cherché une alternative. Et ont trouvé malheureusement la pire qu'il y a en ce moment.
Une réalité qui interroge Eva Lasmine, qui voudrait maintenant pouvoir discuter avec l'une de ces Françaises ayant rejoint Daesh, juste pour comprendre, explique-t-elle. Dans la région de Baghouz, Aurélien Colli, France Inter.
Voilà, des propos en vitesse accélérée, vous l'avez compris, pour des questions d'anonymat. La suite du journal, Bernadette.
L'Algérie, qui a vécu hier la plus forte mobilisation depuis le début de la contestation le 22 février, pour dire non, bien sûr, à un cinquième mandat du président Bouteflika. Un défilé bon enfant, une police particulièrement discrète, même s'il y a eu quelques heures en fin de journée.
En France, c'est aujourd'hui le 17e épisode de mobilisation des Gilets jaunes.
Le mouvement parle d'un samedi décisif. À une semaine de la fin du grand débat, il appelle à une mobilisation massive. En région, le Puy-en-Velay a été choisi comme ville symbole de cette journée. La ville de Haute-Loire, qui se souvient encore des violences du 1er décembre, la préfecture avait été en partie incendiée. Beaucoup de commerçants resteront fermés aujourd'hui. Parmi les revendications des Gilets jaunes, que le travail paye mieux, de plus en plus de travailleurs pauvres. C'est d'ailleurs le constat des Restos du Cœur qui entament leur 34e collecte d'été. Objectif, distribuer 8 millions de repas, des milliers de bénévoles dans 7000 supermarchés en France depuis hier et aujourd'hui encore. Reportage à Perpignan de Sébastien Berriot.
Bonjour messieurs, dames, c'est la collecte pour les Restos du Cœur.
Dans l'un des départements les plus pauvres de France, la collecte des Restos du Cœur est vitale. Premier bilan après une première journée de travail pour José, bénévole au resto.
Pour le moment, ça va. On doit être à peu près dans les mêmes chiffres que l'année dernière. Mais il faut peser. Le soir, il faut aller à l'entrepôt, peser pour voir ce qu'on a eu exactement.
Ceux qui donnent sont souvent des habitués, comme cette grand-mère et cette mère de famille.
Dès que je peux, je le fais, quoi. Oh ben là, souvent, je favorise les enfants, j'avoue, parce que je suis maman et je sais combien ça peut coûter cher de bien nourrir son enfant et d'en prendre soin, quoi.
Je trouve que c'est important. Au moins, ça fait, je pense, un repas pour deux familles, là. Des pâtes, du riz, la sauce tomate, des gâteaux, du chocolat pour les enfants, des cornflakes, je crois qu'ils ont le droit aussi de se faire plaisir.
Même si les Français ont tendance à donner de moins en moins, José, la bénévole, se montre optimiste.
Ils nous donnent un paquet, deux paquets, ou quelquefois j'ai vu des caddies entiers. Ça dépend les gens. Ce qu'on a reçu le plus, c'était les pâtes. C'est pas très cher à l'achat, ça remplit l'estomac. On peut pas obliger, c'est suivant le bon cœur des gens.
Dans les Pyrénées-Orientales, les Restos du Cœur font manger près de 24 000 familles.
Collecte donc des Restos du Cœur jusqu'à ce soir et dans certains magasins même jusqu'à demain matin. Inquiets des conséquences du Brexit sur leurs conditions de travail, les douaniers français veulent étendre leur grève du zèle de Calais et Dunkerque jusqu'à présent aux aéroports et gares de province, notamment Chambéry, Grenoble. Pas de blocage, mais des contrôles plus longs et des risques de retard donc en ce jour de retour de vacances. Les antinucléaires appellent à manifester aujourd'hui à Paris, dans les grandes villes de France. 8 ans après Fukushima, le 11 mars 2011, suite au séisme, au tsunami, les réacteurs de la centrale nucléaire japonaise entrent en fusion. Conséquences gravissimes, contamination des sols, de la mer, des milliers de personnes évacuées. 8 ans après, parmi les questions à régler, celle du stockage des eaux radioactives. Alors comment procède-t-on sur place? Au micro de Lisa Guyenne, les explications de Thierry Charles. Il est directeur adjoint de la sécurité à l'Institut de radioprotection nucléaire.
8 ans après, le site a bien changé puisqu'il y a eu des constructions de bâtiments, notamment un nouveau bâtiment a été construit pour recevoir les personnes qui interviennent. Il y a même, et c'est pas anodin, une cantine sur le site où les opérateurs maintenant déjeunent sur le site. Et également ont été installés des bâtiments pour justement entreposer les combustibles en bon état qui ont été récupérés dans les bâtiments réacteurs, pour entreposer les déchets et surtout pour entreposer les quantités d'eau très importantes qui se sont accumulées au fil du temps sur le site. Pour que la radioactivité ne sorte pas, il faut rentrer de l'eau propre indirectement. Donc sur le site, vous avez une forêt finalement de citernes, vous avez plus d'un millier de réservoirs, chacun faisant 1000 mètres cubes, qui entreposent des eaux après décontamination. Et le sujet, c'est quel devenir pour ces eaux, sachant que localement, après l'accident, les parties prenantes locales, notamment les pêcheurs, n'ont vraiment pas envie de voir de nouveaux rejets des fluides radioactifs provenir de la centrale.
Allez, on va terminer avec quelque chose de moins angoissant tout de même. Une comédie, elle est sortie cette semaine. Damien veut changer le monde. Drôle, mais engagé. Ou comment rire d'un sujet grave, les migrants. Fabien Randriana Rizoa.
Je suis un peu merdé avec un gosse.
Comment ça, t'as un peu merdé avec un gosse? Qu'est-ce que t'as foutu?
C'est un gosse avec sa maman qui vont être conduits à la frontière, tu comprends?
Oh putain, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était grave.
Avec Damien veut changer le monde, Xavier de Choudun laisse les militants purs et durs au placard. Fils d'un couple qui s'est battu pour tout, Damien ne croit plus en rien. Surveillant dans une école primaire, sa vie bascule pour empêcher l'expulsion de Bazad, un élève syrien de CE1.
Donc vous reconnaissez être le père de Bazad ?
Oui.
Sauf que la formule va vite faire des émules, quitte à ce que la machine s'enraye.
Ce que tu as fait. Il faut que tu nous aides.
On veut la même chose que Bazad et sa maman, monsieur.
On va trouver une solution.
Répondre à l'absurdité de l'administration par la reconnaissance de paternité à la chaîne. Un projet inavouable et drôle de bout en bout.
C'est tout ce que vous avez trouvé pour vous taper des meufs ?
Franck Gastambide campe un monsieur tout le monde naïf et un peu paumé qui découvre les petits drames du quotidien, les enfants qui s'enfuient du square à l'approche des voitures de police. Qu'est-ce qu'un délit de solidarité ? Le film oppose sans cesse la loi et la morale, les officiers de l'état civil et des papas de circonstances qui s'impliquent à leur façon.
Ouais, c'est pas ton Kofi qui tape mal et là ? Lui c'est Kofi là ? C'est lui, c'est Kofi. Kofi ?
Oui ?
Ah bah non.
C'est pas lui alors. Ouais, c'est pas lui.
Damien veut changer le monde de Xavier de Choudun. Drôle et sérieux à la fois, c'est tout France Inter ça.
C'est tout le journal de Bernadette Chamonaz.